Allez, bonjour à tous, merci d'être là. On est ravis de vous accueillir pour cet atelier passionnant, j'espère, consacré à la télévision programmatique. Alors, quel est le programme pour 2022 on va réfléchir à cette question ensemble. J'espère que ça pourra être interactif. Je vais commencer par vous présenter nos invités. Yann, je t'en prie, peut-être.
Ça marche. Donc Yann Lachenet, directeur adjoint du marketing et de la com de Sofinco.
Et du coup, Stéphane Kobi, je suis en charge du marketing digital et du média pour la France chez SEB.
Voilà, et Thibaut Munier, moi j'ai créé Numberly, qui s'appelait avant Mille Merci, pour ceux qui s'en souviennent, et qui a la chance d'accompagner Sofinco et SEB depuis quelques bonnes années, on peut le dire, sur d'ailleurs des stratégies qui sont relativement comparables, enfin d'un point de vue marketing, c'est-à-dire qu'on parle de full funnel, puisqu'on a la chance d'accompagner à la fois Groupe SEB et Sofinco depuis le haut de funnel, donc l'achat média programmatique de type branding notamment, et on va parler de télévision aujourd'hui, jusqu'au bas de funnel, en passant par le CRM dans les deux cas, et dans les deux cas, l'utilisation d'une Customer Data Platform. Ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais vous verrez qu'on en touchera un mot quand même, je le pense. Voilà, merci à vous deux, vraiment, c'est un plaisir. Alors, pour commencer cette session, j'avais envie de repenser à un certain John Wanamaker, bien connu de nos discussions, réflexions, marketing, parce que John était un distributeur américain à la fin du 19e siècle, et il y a eu pas mal de citations assez célèbres, dont celle-ci qu'on utilise trop souvent, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Il a dit « Half the money I spend on advertising is wasted », ce qui est quand même un terme assez fort. « The trouble is I don't know which half ». Donc je sais que je gaspille la moitié de mon budget publicitaire, il dit à l'époque. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. Et ça, c'est une question qui nous taraude tous, je pense, le gaspillage. Comment savoir finalement quelle est la bonne moitié? Est-ce que c'est une moitié? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Au fond, la promesse du digital, ça a toujours été de pouvoir mieux cibler, mieux tracer, mieux mesurer. Donc, on l'espère, de un peu moins gaspiller. Pour autant, quand on parle de télévision, on peut se demander s'il n'y a pas une partie des gens qui sont hors cible. Et forcément, il y en a, parce que forcément, on ne peut pas avoir un ciblage parfait aujourd'hui. Et vous allez le voir, avec la télévision programmatique, pas mieux, j'ai envie de dire, pour l'instant. Donc la promesse, elle est là. La question, elle est sur la table. C'est notre objectif à tous, parce que évidemment, ça serait plus efficient. Ça serait l'intérêt des annonceurs, ça serait l'intérêt des consommateurs, surtout. Ça serait l'intérêt de la planète, peut-être, parce qu'on gaspillerait moins de ressources inutiles et de ressources budgétaires. Donc, c'est un enjeu historique pour les annonceurs. Et c'est bien ça, je trouve, qu'il faut avoir en tête quand on regarde la question de la télévision programmatique. Alors, on ne peut pas parler... Alors, messieurs, vous me coupez la parole quand vous voulez. C'est comme ça qu'on va faire. Et puis, pareil, dans la salle, vous levez la main. On va faire ça de façon... C'est une audience confidentielle, donc on va la jouer interactif. Alors, on ne peut pas parler de téléprogrammatique si on ne rappelle pas un peu quel nom on donne aux choses. Donc, désolé, il y a toujours cette partie un peu glossaire qui est un peu un passage obligé quand on parle de télé. Alors, l'inventaire publicitaire télévisuel, il est en constante évolution. Bien sûr, la télé linéaire en live qu'on connaît tous, qu'on regarde un peu moins qu'avant peut-être, au moment de sa diffusion, que ce soit en hertzien ou bien sur la TNT ou le câble satellite. Okay, ça, c'est de l'achat en direct avec des régies traditionnelles. Bonjour et bienvenue. Deuxième type d'inventaire, la catch-up TV, hein, donc là où une émission, un film, une série est proposée sur Internet, gratuitement hein, ou pas, en streaming, après avoir été diffusée en général sur une chaîne TT. Troisième type d'inventaire, la télé connectée et l'OTT, hein, over the top, c'est l'accès à des programmes vidéo en streaming, hein, direct ou bien à la demande, au sein d'une interface, avec trois types de consommation, l'OTT, over the top, donc pensez à une Apple TV par exemple, la VOD, hein, vidéo on demand, ou bien SVOD, donc subscription vidéo on demand, pensez à Netflix hein, quand vous vous abonnez à un service comme ça de streaming. Troisième donc type d'inventaire, et puis le quatrième, la télévision programmatique, où là on va avoir un spot qui est choisi en fonction de la cible. Mais il y a, on va le voir, en général, très souvent, également des individus hors cible qui sont donc exposés à ce spot. D'accord ?
Et du coup, Thibaut, tu le mets où, la segmentée ?
Alors, excellente transition. Merci Stéphane. Sur le slide d'après, on va effectivement rentrer dans le cœur de la télé programmatique et parler effectivement de la télé segmentée. Donc, ce qu'il faut là juste distinguer sur ces inventaires, c'est que les deux premiers sont en achat direct auprès des régies traditionnelles et puis les deux derniers, on peut faire de l'achat programmatique. Alors, les différentes dimensions de la digitalisation de l'achat télé, cette fois, comment est-ce qu'on fait pour acheter de la télé avec une méthode qui soit digitale? Pour ce qui est de la catch-up télé ou du replay, on peut faire du ciblage one-to-one. Donc là, on le sait, aucun problème là-dessus. On peut diffuser des contenus qu'on le souhaite, on peut cibler comme on le veut, on peut acheter en programmatique, ça fonctionne très bien et déjà depuis un bon moment, mais c'est une partie seulement de l'inventaire. Deuxième type d'achat, la télé linéaire programmatique, qui est l'essentiel de ce dont on risque de parler aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'est quoi ? C'est la télé normale, on vient de le voir, hein, c'est la télé linéaire. Là, il y a des offres qui sont lancées depuis à peu près 2 ans maintenant, en France, en tout cas. On n'est pas forcément en avance, il faut en avoir conscience. Là, on peut faire du ciblage one-to-many, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de diffuser à la pause de la Ligue des Champions, si la Ligue des Champions était encore diffusée en télé linéaire, mais il ne s'agirait pas d'avoir un spot différent pour Yann et un autre pour Stéphane. Hein. Donc, on achète des segments d'individus et, en revanche, on va pouvoir, on va le voir, ne payer qu'une partie de ces individus qu'on expose quand ils sont dans le ciblage qui nous intéresse. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire, quand on dit la téléprogrammatique, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence, on achète des spots. Mais rien n'a changé. C'est juste que le mode d'achat est fait effectivement aux enchères et qu'on va pouvoir concentrer son achat que sur une partie des gens qui sont exposés. En fait, on expose plein de gens, mais on ne paye que ceux qui correspondent aux critères qu'on a donnés. Okay ? Ça, c'est très important de bien le comprendre. Alors, c'est un côté un peu déceptif. On a l'impression que c'est un peu la réponse des chaînes de télé au fait que la techno n'était pas là, donc en attendant, on ne paye pas ceux qui sont hors cible. Okay. Troisième partie, un ciblage one to few, donc on n'est plus dans le one to many, on rentre dans le ciblage beaucoup plus fin. On n'est pas dans du one to one parce qu'il y a des questions d'anonymisation, etc. Donc on aura des segments beaucoup plus fins. Et là, on parle de télé segmentée ou de télé adressée. Et là, vraiment, on est dans la promesse programmatique qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on diffuse des spots différents sur un inventaire télé qui peut être un inventaire télé linéaire avec un décrochage au foyer. Et donc là, on a un certain nombre de chaînes qui permettent de faire ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui un petit nombre de foyers français qui sont adressables, mais on va le voir, ça va, c'est le bon moment, puisqu'on estime qu'à la fin du T2, on va avoir un basculement et une forte accélération sur le marché français de cette partie télé segmentée. Est-ce que sur les concepts, on est clair ?
Ouais, non, sur les concepts, très clair. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais en intro, Thibaut. Enfin, je pense que c'est effectivement programmatique, c'est un enjeu de d'achat. Enfin, pour nous annonceurs, je pense que, enfin, encore plus que ça, c'est un enjeu de transformation pour les régies, pour les chaînes télé, qui est assez conséquent. Enfin, en gros, si on bascule là-dessus, en gros, TF1, M6, il faut qu'ils changent tout leur organigramme, quoi. Enfin, bon, déjà, ils virent 800 personnes. Mais c'est exactement ça, c'est de passer d'un mode d'achat pour nous où on achète à la performance et eux à un système où il n'y a plus d'acheteurs, il y a des ordinateurs et on passe pas d'une relation one-to-one de l'annonceur à la régie, mais on passe par des systèmes de bits, de ciblage, etc. Et du coup, il y a cette double transformation en réalité, quoi, qui... Et c'est certainement pour ça aussi que ça prend autant de temps, on va se le dire. Quoi.
Les enjeux sont clairement là, en fait. C'est cette révolution que les régies vont devoir faire, que tu exprimes très bien, elle est ultra conséquente pour eux. C'est une révolution. Et ça fait 10 ans qu'ils traînent des pieds. Alors, il y a des problèmes réglementaires jusqu'à 2020, mais qui sont levés maintenant. Et c'est encore compliqué. Je ne sais pas s'il y a des régies ici, mais ça
c'est
reste.
Vrai, on n'a pas demandé qui était là. Nous, on parle.
Non, mais moi, je peux en parler avec. Enfin, j'en parle avec elle librement aussi. Parce que tout. Enfin, tu l'as très bien dit. Hein, c'est des gens qui vont certainement être sur le carreau. C'est des manières de fonctionner complètement différentes. C'est de la transparence qu'il n'y a pas à date aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on interviendra plus précisément, mais effectivement, pour Sofinco, c'est toujours ça, d'ailleurs. C'est faire des tests, continuer ces tests-là pour comprendre comment ça fonctionne, aider les régies à être libres de faire cette révolution parce qu'elle est nécessaire. Et quand on avait préparé le webinaire, je t'expliquais, bon, qu'on a un peu de temps, je pense. Hein, on peut discuter.
Mais vas-y, mon ami, parce que franchement...
et que je commence à avoir un peu de bouteille dans le marketing, j'ai vécu 3 révolutions, enfin j'en suis certainement une 3e là, c'est que en presse, tout au début de ma carrière, j'achetais au kilo aussi, et ils se foutaient de savoir si j'avais des retours sur investissement, etc. Ce qui était intéressant, c'était la remise qu'ils m'obtenaient pour un L, alors, sauf un co dans L, ça n'avait pas de sens, mais j'avais 70% de remise, c'était super, il fallait que j'achète. Et tout d'un coup, je leur expliquais que, mais en réalité, je préférais que ce soit des gens qui soient de ma cible. Et je ne veux pas une remise forcément, mais je veux être sûr que les gens qui viennent, que quand je passe ma pub, que les gens viennent chez moi. Et donc, ça a donné lieu à des changements dans les régies et de fonctionnement. Donc, j'ai participé à ce truc-là. On était dans les premiers acteurs, sauf un coup à l'époque, pour faire de la presse marketing direct. Et tout d'un coup, on s'est vu, et notamment dans notre secteur d'activité du crédit, de passer de 10 pages par an à 52 pages par titre. Et donc, chaque semaine, on était présent parce qu'on mesurait et on expliquait que la remise n'était pas intéressante, mais c'était bien le ciblage et notre taux d'investissement mesuré qui permettait de faire les choses. Ça a changé des choses, ça remonte à quelques années. La deuxième, c'est quand les ADEX sont arrivés. J'achetais au kilo des encore une fois, des bannières publicitaires qui étaient la plupart du temps pas vues, mais affichées quand même, donc tu les payais. Et là, quand on a commencé à dire, mais non, mais j'aimerais bien pouvoir mesurer les choses, y a un peu ce qu'on vit en ce moment sur la télé avec les régies, c'est on t'explique 2-3 trucs pour essayer de retomber sur ses pieds, mais tu sens qu'il y a peu de maîtrise sur ce que tu achètes en réalité. Et donc, ça a donné lieu aux ADEX, et à la manière d'acheter... de manière beaucoup plus ciblée et un suivi extrêmement factuel de ce que tu investis. Et ben là, on est à ce carrefour-là où moi, j'ai commencé la télé programmatique en novembre. Elle est en continu pour moi. T'as commencé avant ? Non ? Ouais.
C'est concomitant.
En novembre, on est en train d'apprendre plein de choses, mais ce dont j'apprends, c'est de pouvoir suivre ces investissements, pouvoir parler un même langage sur le digital que sur la télé. Aujourd'hui, on est en QGRP en télé, on est en CPM sur le digital. Là, j'ai réussi à faire parler un QGRP égal un CPM. Est-ce qu'on peut dire la même chose alors que c'est quand même de l'achat d'espace publicitaire? J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il patine à m'expliquer un coup GRP ne peut pas correspondre à un CPM. En tout cas, tu ne peux pas avoir un lien entre les deux. On y arrive, là. Ça fait 2 mois qu'on bosse dessus avec les équipes de Numberly, hein, mais ça fait 2 mois et tout le monde commence à se détendre là-dessus et à se dire qu'on arrive à trouver une correspondance. Et donc, du coup, on a un KPI commun. Hein, c'est bien, on commence à progresser là-dessus. Donc, c'est très bien. Et puis là, on va affiner des ciblages, etc. Mais je vais te redonner la main. Et voilà, c'est trop.
Ouais. Vous pouvez dire peut-être vous présenter si, quand vous posez une question.
Bonjour Aurélien, je travaille chez
France Télé. Yes. Merci Aurélien.
Donc en fait, moi mes équipes médias chez moi échangent avec les équipes de bidding chez Numberly, qui elles travaillent avec les équipes digitales de la régie publicitaire. D'accord. Pour essayer de retraduire le CPM au coût GRP. Et après des longs échanges. Moi, je ne suis jamais intervenu.
Pas pour la norme marché.
À la norme marché, il n'y en a pas pour l'instant. Donc c'est chez nous. Oui, c'est juste sur nos problématiques à nous. Et c'est nous qui voulons absolument avancer sur cette correspondance-là. Moi, à date, je n'ai pas rediscuté avec les régies, d'ailleurs, sur ce thème. Mais c'est pour nous. Il n'y a pas de normes, voilà, par exemple.
Il faut construire les normes. On se disait, le bon titre, ça sera peut-être celui de l'année prochaine, ça aurait dû être Télé Bricolex, hein, parce qu'il y a un petit côté quand même MacGyver là-dedans, mais moi j'adore, parce que c'est comme ça qu'on a démarré toute l'évolution du digital. À chaque fois, c'est bien comme ça qu'au début ça se passe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un basculement et tout le monde sente que c'est l'intérêt, que c'est le futur et qu'il faut s'organiser pour avancer dans ce sens-là. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce que dans tous les pays, c'est pas juste en France, hein, les chaînes de télé au départ ont freiné des cas de fer, hein, on peut se le dire, c'est parce qu'elles se sont dit qu'elles avaient tout à perdre de ce monde-là. Quand on y réfléchit, c'est pour ça que je voulais rappeler la promesse au début, c'est que c'est quand même l'idée de dire, comme il y a du gaspillage, on va essayer de faire que chaque spot aille à l'audience qui s'y intéresse, donc que ça soit l'intérêt du consommateur, que ce soit l'intérêt de l'annonceur, et je le disais pas, mais si possible, que ce soit évidemment l'intérêt de la chaîne de mieux monétiser son espace en ouvrant plus à un plus grand nombre d'annonceurs qui seraient chacun intéressés par une partie de l'audience.
Cette période un peu floue, elle est nécessaire. Je trouve ça, alors c'est super intéressant parce que justement, ça, tout le monde s'embarque petit à petit. Et une fois que les chaînes seront rassurées, parce que effectivement, ce que tu dis, ils vont élargir leur clients. Nous, on a un gros acteur télé. On n'était pas les premiers ciblés dans leur esprit à faire de la téléprogrammatique, puisque comme ils nous captent ailleurs sur le coût GRP et puis sur les gros achats volumiques, ils se sont dit c'est pas eux qui allaient être intéressés, mais les petits acteurs. Le fait est, Sofinco, intrinsèquement, on aime avoir ce temps d'avance et explorer, etc. On joue dedans, mais eux, dès qu'ils seront rassurés de dire tous les petits acteurs qui n'existaient pas en télé vont pouvoir acheter des campagnes à 10 000 balles, la campagne, parce qu'ils vont pouvoir toucher effectivement les individus qu'ils souhaitent faire. Et nous, les gros acteurs, on va continuer à avoir d'autres apprentissages et une autre manière de faire. Et au final, ils vont s'apercevoir qu'ils ne perdront pas de chiffre d'affaires. Au départ, ils ont peur. Mais je pense qu'in fine, ils vont s'y retrouver.
Merci. Alors, j'avance un peu. Les forces potentielles ou déjà avérées de la téléprogrammatique, c'est quoi ? C'est d'abord d'aligner, Yann le disait à l'instant, si possible, des indicateurs de performance sur ceux des activations digitales. Ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Deuxièmement, c'est que l'achat, on l'a dit aussi par Stéphane, soit simplifié, concentré. Alors, tu ne l'as pas dit, mais moi je peux le dire, que ce soit simplifié et concentré sur une plateforme, si possible, un DSP. C'est notre manière de dire que ça simplifie beaucoup les choses. Hein. Troisièmement, profiter évidemment, je n'ai pas dit, de la puissance de la télévision. C'est bien entendu un média incontesté, incontestable en termes de reach et d'impact. Je trouve qu'on parle beaucoup du reach, on dit l'audience, mais au-delà du reach, il y a l'impact qui est juste incomparable. On ne peut pas comparer un spot télé à certains moments avec, en prime time avec des bannières ou de la vidéo sur le digital en général. C'est juste pas juste de faire ça. Donc on va avoir besoin de métriques concrètes, je pense, au-delà du GRP, pour pouvoir mesurer l'impact réel sur les changements de comportement des consommateurs. Ensuite, un mode d'achat simplifié, on l'a dit, au CPM, et des tickets d'entrée, ça c'est très important, Yann vient de le dire, mais la grosse promesse quand même de ce mode d'achat, c'est de pouvoir avoir des budgets d'accès à la télévision qui sont très réduits. Et du coup, ça devient une opportunité pour des annonceurs qui ne pouvaient pas se permettre de la télé avant, et pour les chaînes qui peuvent, du coup, toucher des annonceurs un peu nouveaux. Et ça, c'est vraiment important. Nous, ça fait longtemps qu'on le voit aux États-Unis, où c'est le cas depuis longtemps. On peut avoir des budgets, alors pas 10 000 euros, c'est peut-être un peu juste, mais aux États-Unis, c'est un petit peu plus. Mais on peut faire de la télé avec des budgets très modestes. Et bien entendu, c'est intéressant. Alors, on ne peut pas tout mesurer. On ne peut pas avoir un budget très faible et une granularité de lecture de l'impact hyper fine, parce que forcément, il y a une contradiction entre les deux. Pour mesurer un impact très fin, il faut avoir un peu plus de volume, donc un peu plus de budget. Mais déjà, ça veut dire que c'est accessible. C'est ce que les chaînes appellent, hein, les primo-accédants. Ensuite, un ciblage granulaire qui est possible sur le support télé. Alors, avec les limites que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on passe par un DSP en télévision programmatique, nous, on peut placer un ordre, un bid, hein, avec un certain nombre de critères, beaucoup, beaucoup de critères. Et en revanche, on ne paiera que sur ces cibles-là, même si, et ça sera forcément le cas, il y a des gens hors cible qui seront exposés. Donc, pensez aux critères sociodémo, à la géolocalisation, aux critères d'achat en ligne, au comportement des types de segments de clients, qu'on arrive à qualifier sur le web, à des moments de vie, etc. etc. Alors comment est-ce qu'on fait pour valider après coup que ce sont ces gens-là qui ont bien été exposés, pour savoir combien est-ce que finalement la campagne télé nous aura coûté? Ben, on utilise un panel. On utilise Médiamétrie qui va nous dire sur la diffusion de votre spot, vous avez eu tant de personnes dans chaque cible avec chaque critère qui ont été exposées. Et du coup, on s'en sert, enfin pas nous, mais le DSP pour nous facturer. D'accord ? Alors, quelques use cases. Bon, bah d'abord, on va parler de groupe SEB. Alors, on a 20 secondes pour pouvoir écouter.
Grâce à ces vidéos exclusives, vous allez oser vous surpasser. Osez déléguer la préparation du dîner et même osez cuisiner maison pour 10. Et oui, vous allez oser avec le nouveau Compagnon Touch, Moulinex.
Formidable. Donc,
le plus bas de ma campagne, merci.
Ah. Désolé. Bon, voilà, donc un aperçu de cette campagne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé l'inventaire de France Télévisions, du coup. On a eu, du coup, une très bonne couverture, évidemment, de la population française avec France Télévisions. On a diffusé, donc, en direct, hein, pendant un programme de télé linéaire classique. On a ciblé des femmes de moins de 50 ans, CSP+. Et pour Numberly, on en parle parce que c'est quelque chose qui était totalement, il faut le dire, inaccessible pour nous. On a créé Numberly il y a 22 ans. Jamais on aurait imaginé qu'on puisse acheter un spot télé. Jamais. Alors peut-être que tout le monde s'en fout, mais pas nous, d'abord. Pas notre client Seb, visiblement. Et surtout, on va essayer d'apporter ce qui a fait qu'on est là 22 ans après, c'est-à-dire de la data, pas forcément direct, traçable, en perfect match, mais de la donnée sur une nouvelle façon de regarder, des indicateurs cohérents avec le digital, l'intégration avec le reste du média l'ensemble du funnel, peut-être. Et il faut voir, j'aurais dû vous le montrer sur une console, sur un DSP, l'incroyable facilité, c'est-à-dire qu'on achète son display et puis sur la même console, on peut augmenter sa campagne avec de la télévision. Alors derrière, il y a encore un peu de travail de tuyauterie à faire, parce que concrètement, derrière ça, il y a des gens qui courent un peu hein, encore. Mais l'idée, elle est là, la promesse, elle est de notre point de vue extrêmement importante. Elle sera forcément très complémentaire de ce que les chaînes de télévision et leurs régies vont proposer en parallèle. Mais la compétition, c'est vertueux. Donc nous, on travaille avec du coup Xandr, qui nous permet de comme DSP, de passer nos offres. Et puis Realitix, qui est une société qui fait partie du panorama, à la fois pour passer ses ordres et puis pour mesurer l'impact. Alors, les résultats, on les juge encourageants, je laisserai Stéphane commenter, sur deux critères notamment, le CPM et le reach. Le CPM, il est compétitif sur cette campagne par rapport à de la télé linéaire activée avec un mode d'achat traditionnel, c'est-à-dire qu'on cible, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les femmes de moins de 50 ans CSP+. Bon, comment est-ce qu'on fait ? On va comparer le coût qu'on arrive à obtenir et puis le coût qu'on obtient traditionnellement ou que l'agence média classique pour la télévision déclare obtenir en utilisant du GRP sur ce type d'achat de télé linéaire. Donc là, on a exposé 2 millions d'individus en contact télé. On a plus de 7 millions du coup de diffusion de contact télé au global qui ont vu finalement le spot publicitaire. Donc nous, du point de vue du CPM et du point de vue du reach, on juge ça intéressant. Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux porter.
Je vais compléter. En fait, je vais compléter avec un modulo à la baisse et un modulo à la hausse. Le module à la baisse, c'est que en fait, enfin, sur la question du CPM, enfin, on en a beaucoup discuté avec Thibaut. Enfin, ça va demander, et c'est ce que tu fais chez Sofinco. Enfin, ça va demander beaucoup plus de finesse et de travail pour arriver réellement à comparer Apple to Apple. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Enfin, disons que on craignait que ce soit bien pire que ça. Donc, en ce sens, c'était quand même une bonne nouvelle. Mais ça va demander encore du travail. En revanche, il y a des bénéfices connexes qui sont. Moi, je vais raconter une anecdote. C'est bien dans ces conférences d'avoir des anecdotes. Cette campagne, je l'ai achetée avec Thibaut, donc mon agence digitale, en ayant forcément. Dans ma tête, c'est une campagne digitale, puisque c'était de la programmatique, etc. Sauf que, comme l'a très bien expliqué Thibaut, en fait, on achète en télé linéaire, en réalité, vous l'avez potentiellement tous vu, à la télé normalement. Mais sauf que pour moi, c'était pas une campagne télé. Donc, un truc intéressant, c'est que nous, on est en B2B2C. Et l'impact de la télé, en fait, nous, il y en a deux. Il y a l'impact, la transformation de mon consommateur qui va aller acheter, mais il y a ma relation avec mon distributeur, et ça, c'est méga important. Là, l'intérêt, c'est qu'en investissant très peu, en fait, je suis passé à la télé, mon distributeur l'a vu, et du coup, l'anecdote, c'est que nous, on a un système, tout le monde fait ça, mais quand j'ai une campagne télé, j'informe mes commerciaux qui sachent que quand ils vont en magasin, il faut qu'ils en parlent aux distributeurs pour négocier des mises en avant, des machins, avoir des réassorts de plus grande quantité parce qu'il va y avoir plus de ventes. Et en fait, je ne l'ai pas du tout fait, puisque pour moi, c'était une campagne digitale que je pensais programmatique. Et je n'avais pas discuté avec les régies, etc. Donc, je n'ai pas informé la distribution. Et puis, c'était petit. Enfin, je ne sais pas combien on a investi, mais c'était très petit, l'investissement. Bref, j'en ai pas parlé à mes commerciaux. Il y a mon téléphone qui a commencé à crépiter le matin de la campagne, disant mais quoi, on est encore en plus, c'était sur un produit assez star pour nous qui est méga important. Et du coup, j'avais tous les commerciaux qui m'appelaient, qui me disaient « Mais tu nous as pas dit qu'on était en campagne télé, nos acheteurs nous en ont parlé, les chefs de rayon aussi, est-ce qu'on est en campagne télé ?» Et mon premier réflexe, ça a été de leur dire bah, « Non ». Et puis en réfléchissant, « Ah si, pardon, autant pour moi. Alors, c'est pas vraiment de la télé, mais c'est... ouais, enfin bon, oui, c'est une campagne télé. » Et en réalité, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, à très peu de frais, on peut acheter une visibilité quand on est en B2B2C, qui a une vraie valeur, en fait. Et c'est là où je dis, je ne sais pas si c'est rentable, mais bon, là, en l'occurrence, c'était sur un gros produit. Mais ça veut dire que sur des petits produits, et ça revient un peu à ce que tu disais, les régies, quand ils ont proposé cette offre, ils se disaient, on va aller chercher des nouveaux annonceurs qui investissent jamais en télé et qu'on va pouvoir aller toper. Mais en réalité, pour moi, c'est aussi intéressant quand j'ai des petits produits où j'investis, je sais pas, 200 000 euros. Pour nous, c'est assez peu. 200 000 euros, généralement, on se dit, on va faire que du digital. Ben là, je peux me dire, je vais claquer 30, 50 000 euros pour avoir une petite campagne télé. La réalité, c'est un peu comme quand on fait une campagne presse et qu'on a... Alors moi, je ne l'achète pas au kilo, mais on a une insertion dans Elle et deux insertions dans Gala. Ben, c'est rien du tout, sauf qu'on peut aller voir le distributeur et dire, t'as vu, je fais une super belle campagne. Ben, en fait, c'est un peu ça aussi. Ça ouvre des possibilités dans ce domaine-là. Enfin, ça, c'est pour à court terme, parce qu'effectivement, après, il y a la question de à long terme. Si c'est un mode d'achat qui devient généraliste, faudra mieux l'appréhender. Et tout ce qu'on apprend ici, c'est de la courbe d'apprentissage qu'on aura plus à faire dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, quand ça existera vraiment, quoi.
Merci. Alors, on va avancer un peu. On a aussi, du coup, à présent, le cas de Sofinco, qui est un acheteur majeur en télé linéaire.
Quand vous avez meublé votre première maison, on était là. Le jour où la télé est arrivée, on était à vos côtés. Et puis, pour vos grands départs en vacances, on vous a accompagnés. Ah, et quand une bonne vieille cassette vous faisait danser, on était avec vous. À l'arrivée des consoles de jeux, on était déjà dans votre équipe. Et pour l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Ça fait 70 ans que les hommes et les femmes de Sofinco renforcent votre pouvoir d'agir. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et ça, c'est smart. Sofinco, vous donnez de l'avance.
Voilà. Donc, Sofinco, vous vouliez compléter votre plan de télé linéaire gré à gré, apporter de la répétition, tester, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est ce qu'on a pu faire avec cette fois une combinaison, puis je vais te laisser réagir, d'achat média programmatique, d'utilisation de Xandr et d'Adkimia. On a opéré les campagnes avec, du coup, la segmentation sur les critères qui étaient ceux de Sofinco. Et du coup, on a peut-être pas une deuxième fois quand même. Vas-y. Voilà. Alors, du coup.
Oui, j'en ai parlé. Déjà tout à l'heure, mais c'est effectivement des tests qu'on souhaite faire. Et la première, c'était être sûr qu'il y ait suffisamment d'inventaire pour nous, c'est-à-dire qu'on puisse acheter quand même de manière conséquente, parce qu'encore une fois, on est un des gros investisseurs en France, donc fallait que je pouvais pas me permettre d'avoir une toute petite campagne. Et j'avais un peu peur que ce soit assez discret. Et la première, cette première coche a été faite puisque on a eu largement les objectifs atteints en volume. On a même pu en faire un peu plus. Donc, il y a de la place en achat programmatique. Ils n'avaient pas mis tous leurs écrans à cette époque-là. Donc, maintenant, ils commencent à mettre le prime time, etc., aussi en achat programmatique. Donc, c'est tout ça qu'on voulait apprendre, sur lequel on voulait apprendre. Après, on avait un deuxième KPI, c'était de dire, OK, est-ce qu'on va acheter correctement et à un coût maîtrisé, en tout cas moins cher, parce que tout le monde nous promettait le moins cher, mais c'est certainement vrai pour partie, et pour nous, encore une fois, on fait partie du groupe Crédit Agricole, on achète beaucoup, donc je pense j'espère en tout cas qu'on a des bonnes remises par rapport à d'autres. Donc on a maîtrisé, en tout cas, sans passer par cet univers de massification qu'est le groupe Crédit Agricole, on a maîtrisé avec cet achat-là les coûts de notre spot. Donc ça, c'est aussi la deuxième étape extrêmement bien. Et on en a profité, et c'est comme ça qu'on le joue encore jusqu'à ce mois-ci, en complémentarité de nos stratégies classiques pour aller faire de la surpression ou aller toucher des écrans. Encore une fois, quand tu fais de l'achat de masse, souvent, tu achètes avec des grosses régies et tu n'achètes pas toutes les chaînes parce que voilà, t'as, économiquement, tu as plus d'intérêt à faire comme ça. Mais du coup, tu laisses passer certaines chaînes, certaines émissions et potentiellement un certain public. Et du coup, grâce à la programmatique, on a pu aller chercher, en l'occurrence, l'équipe, par exemple, où on n'est pas en classique, on a pu aller chercher cette chaîne en plus. Voilà, ouais. Les stratégies qu'on
a mis. Je sens que quand on a cité l'équipe, Aurélien a levé la main.
Non, est-ce que ça a été au dépend de la stratégie VOL, notamment toute la complémentarité que vous pourriez faire ?
Non. On continue de faire notre stratégie VOL en parallèle. À un moment donné, tout ça va se rejoindre, en tout cas. Mais là, pas là. Là, on a pris un budget test qu'on a dédié à ça.
Du coup, les avantages, c'est la granularité avec ces chaînes que vous n'aviez pas dans le plan gré à gré. C'est cette complémentarité dont tu parles, pouvoir apporter finalement en surpression un message différent et puis travailler. Moi, je pense que c'est fondamental, travailler en fil rouge. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'achat télé classique. Et là, on peut imaginer des choses plutôt dans la longue durée de type Horizon. Dans beaucoup de secteurs, c'est quand même très malin.
Excuse-moi.
Ouais, du coup, vas-y, je t'en prie.
Mais du coup, ce qui est intéressant, et aussi par rapport à ton anecdote, c'est que même chez nous, on a une... Alors, la révolution est bien moins grande que dans les régies, mais tu vois, t'as pas tout de suite mis la télé avec le digital parce que c'était du programmatique, donc c'était forcément du digital, etc. Donc, il y a une façon de faire. Et là, moi, je vous parle avec des KPI que j'utilise généralement dans le digital. Je vous ai pas parlé tout à l'heure un petit peu pour illustrer, mais de coup GRP, de cibles médias, etc. J'ai repris mon côté digital alors que je sais que je suis sur le média télé. Et tout d'un coup, ça veut dire aussi, moi, chez nous, dans nos organisations, ça va simplifier la manière de faire. On va tous parler d'une seule et même voix. On ne va pas dire d'un côté, tu as la télé, d'un côté, tu as le digital. Tout le monde va penser client et ta stratégie complète, quoi.
Absolument. Alors, la mesure de l'impact, c'est fondamental. Si on ne peut pas mesurer, on n'est pas à la hauteur de la promesse du digital. Donc, quels sont les nouveaux KPI de mesure ? Bah, évidemment, on va avoir des choses qui sont alignées sur des activations digitales. Combien il y a de spots, combien il y a de contacts sur la cible, quel est le CPM sur la cible, combien il y a de contacts sur des individus de plus de 15 ans, par exemple, ou quel est le CPM sur ces gens-là, quelle est la part de diffusion sur la cible, et puis quel est le coût par engagé. On va pouvoir utiliser ça avec notamment la solution de Realytics dont on parlait, qui va aller traquer après la diffusion d'un spot, dans l'immédiat, le pic de trafic sur le site qui est poussé pour aller du coup regarder quelle est la part de trafic supplémentaire et quel est le niveau d'engagement de ces nouveaux visiteurs. Ça, c'est la mesure qui est faite aujourd'hui, qui n'est pas parfaite, hein, franchement, mais ça reste encore très rudimentaire d'aller mettre un pixel sur un site. Il y a une espèce de rupture de charge. D'un côté, je fais un spot télé. De l'autre, je regarde si j'ai un pic sur mon site et je le compare avec le trafic habituel que je peux avoir sur ce site-là. C'est comme ça que ça fonctionne, la solution dont je parlais. Ceci étant, il y a une autre méthode de mesure qui n'est plus du tout probabiliste, mais qui est déterministe, où on va aller croiser les données. Et ça s'appelle une clean room. Dans une clean room, c'est le mot-clé, je pense, de cette année ou des 5 années qui viennent, cet endroit sécurisé où on va pouvoir croiser des données. Alors, on parle beaucoup des clean rooms et on en a beaucoup chez Numberly, beaucoup présenté de cas et gagné de prix autour de croisements entre la donnée Carrefour et puis, par exemple, la donnée d'une marque. Mais il faut voir qu'une clean room, ça sert aussi à croiser des données de publishers et d'exposition l'action média. Et donc, dans la télévision, c'est absolument clé. On va vers ce modèle, on va vers l'idée qu'on va pouvoir croiser. Et c'est plus une idée, je vais vous montrer un cas. Ça, c'est un cas américain que j'ai présenté la semaine dernière à San Francisco pour une marque de pet food qui s'appelle Hills, qui est positionnée, si vous connaissez un peu, sur clairement en premium et autour du secteur des produits qui sont prescrits souvent par des vétérinaires. Et donc, ils ont deux gammes, une gamme que vous trouvez dans la grande distribution classique, une gamme que vous trouvez qui est prescrite par un véto et qui est du coup qui doit être achetée que dans certaines enseignes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour Hills? Ils ont choisi en tant que marque, ça c'est assez notable, c'est un des premiers cas au monde, d'investir dans une clean room, alors que c'est une marque. Donc, ils ont construit un hôtel, hein, une clean room, c'est un hôtel, et puis ils ont commencé à mettre leurs données à l'intérieur et ils nous ont mandaté, nous, Numberly, pour opérer cette clean room. Donc, on a une équipe de 10 personnes qui travaillent toute la semaine sur leur clean room au fond du Kansas. Sauf que c'est une grosse machine derrière, donc ils ont mis toutes leurs données first party, leurs données CRM, leurs données de visite, leurs données aux États-Unis, c'est formidable parce qu'on peut acheter un peu tout et n'importe quoi en matière de données, donc des données de panel, des données socio-démo, des données de share 10, si vous connaissez, et puis des choses qui vont nous intéresser ici, des données d'exposition média, des données d'exposition télé, et ils ont pu ouvrir deux chambres dans leur hôtel, deux chambres sécurisées qu'on va opérer, une chambre où ils attirent les données des distributeurs, donc tenez-vous bien, ça n'existe pas en France. Hein. Une marque qui investit dans un hôtel, qui loue une chambre sécurisée dans laquelle un distributeur va aller déposer une partie de ses données. Parce qu'aux États-Unis, il y a des distributeurs spécialisés dans le pet food. Et donc, les distributeurs ont accepté. Aucun distributeur français, je pense, enfin peut-être Decathlon va apporter une révélation aujourd'hui, mais n'accepterait de déposer ses données dans un environnement, aussi sécurisé soit-il, qui appartient à une marque. Bon, ben là, c'est le cas. Alors, ils ne déposent pas toutes leurs données, ils déposent leurs données qui concernent la marque en question. Et pareil pour la télévision, les opérateurs de télé vont déposer dans cette chambre qui est sécurisée, qui est garantie par un tiers de confiance, etc., les données d'exposition télé. Du coup, nous, tiers de confiance, Numberly, on opère ça et on se régale parce qu'on va croiser les données CRM avec les données de la télé, avec les données du distributeur. Il y en a d'autres qui s'annoncent. Je ne dis pas que c'est le modèle qui va se développer forcément partout parce que les distributeurs eux-mêmes s'organisent et proposent des clean rooms petit à petit. Mais on le voit bien, il y a une course à l'équipement dans le domaine de la clean room. Demain, peu importe de qui ce sera, je pense, la clean room, en tout cas, on a besoin de connecter ces données, on a besoin de collaborer, et la télévision va être un sujet clé pour cette collaboration. Alors, pour finir, il faut qu'on parle de télé segmentée, parce que c'est le nouveau terrain de jeu, c'est ce que vous attendez tous. La télé adressée ou segmentée, on l'a dit, c'est très différent de la télé programmatique qu'on a évoquée, parce que seuls les individus ciblés ne seront exposés au spot, comme on peut déjà le faire, évidemment, en digital. Alors, c'est quoi les développements? Pourquoi est-ce qu'on dit que là, on est à un moment charnière dans le développement de la télé segmentée ou adressée? Eh bien, parce qu'en 2022, il y a une très forte accélération. Aujourd'hui, vous avez 5,5 millions de foyers qui sont éligibles à la télé segmentée. D'accord, vous avez eu un peu moins de 400 campagnes, sans doute, qui ont déjà été faites, avec des opérateurs clés comme Orange, Bouygues et SFR, par exemple. Et là, vous allez avoir une accélération très forte des connexions de box. On pense qu'on va avoir presque 8 millions de foyers connectés fin 2022, 7,5 millions et 9 millions l'an prochain, adressables aux foyers. D'accord ? Ça représente 20 millions de personnes l'an prochain. Donc on va avoir 20 millions de Français l'an prochain qui vont être adressables avec de la télévision segmentée hyper précise comme on le fait en programmatique. Ça change tout, évidemment. Et donc tout ce que je viens de vous montrer sur les clean rooms va commencer à être faisable puisque par définition, en télé segmentée, on peut cibler uniquement les gens qu'on veut. On ne paiera que ces gens-là et on pourra croiser l'exposition télévision avec le ciblage qu'on a fait. D'accord ? Donc au final, il y aura plus de reach, plus de précision, moins de silos et plus de fluidité. J'avais envie de conclure en vous montrant trois leçons que nous, on tire de l'utilisation des clean rooms et donc qui vont être des bénéfices qu'on va aller chercher en télé. Premièrement, l'attribution, ce n'est pas l'incrémentalité. Quand on compare les deux, on le fait tous, on le sait le faire en digital. Bon, ben, va falloir intégrer la télé là-dedans, c'est-à-dire faire de l'expérimentation. À gauche, vous avez les résultats d'une campagne avec de l'attribution, on choisit sa fenêtre, etc. On a un ROAS de 20, ça ne veut rien dire. Évidemment, ça ne peut pas dire qu'avec un euro investi, on en a 20. C'est une mesure de ROAS. Malheureusement, c'est comme ça qu'on mesure 99% du média digital. À droite, vous avez l'incrémentalité, une expérimentation réelle avec un groupe test, un groupe témoin parfaitement comparable. On n'expose que le test en plus du reste et aucune autre différence entre le test et le témoin. Ils sont exposés, par exemple, au hasard, à la même quantité de télé linéaire, le test et le témoin. Et on va juste comparer l'impact de ce qui différencie le traitement des deux groupes. Ça, c'est un uplift, c'est de l'incrémentalité. Avec la même campagne, vous voyez qu'on a un ROI d'un peu moins de 2. Et là, on est beaucoup plus proche, certainement, de l'impact réel. Deuxième grande leçon qu'on arrive à mesurer grâce au clean room, et demain qu'on va avoir très fort envie de faire en télé, le always on, je le disais, le côté fil rouge. On sait que ça marche, on le voit sur ce schéma pour une marque de food. On sait que quand on travaille dans la durée, on arrive à optimiser les cibles. C'est plus de boulot, beaucoup plus pour nous, mais il y a un apprentissage et une courbe d'apprentissage, c'est mieux pour la marque et ça marche beaucoup mieux en termes de sales lift. Donc ça, il faut qu'on le valide en télévision. Avec des budgets comme ça, c'est parfaitement faisable. Dernière chose, on va pouvoir cibler, et notamment ceux qu'on appelle les movable middle, c'est-à-dire ces gens qui sont au milieu. C'est-à-dire qu'on va exclure ceux qui n'ont aucune chance d'acheter. D'accord ? Aucune chance de prendre un crédit, aucune chance d'acheter un compagnon chez Seb. Et on va exclure ceux qui viennent d'en prendre un, qui viennent d'acheter un crédit, qui viennent d'acheter, de prendre un crédit, qui viennent d'acheter un compagnon, parce qu'évidemment, ils ont une assez faible probabilité de recommencer demain. Et donc, on va aller centrer ça sur ceux qu'on appelle les movable middles, des gens qui sont au milieu, qu'on va essayer de déplacer, qu'on va essayer de faire consommer. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est essentiel. Inutile de dire que ça n'a jamais été fait en télévision, c'est pas possible. Donc c'est intuitif, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire quand on fait son plan média, mais concrètement, comment savoir, comment faire ? Bah demain, en téléadressé, on pourra exclure les gens qui viennent de prendre un crédit, les gens qui viennent d'acheter un compagnon, par exemple, exclure aussi les gens qui n'ont aucune chance, parce qu'on peut faire un modèle pour prévoir que quelqu'un a aucune chance d'acheter tel ou tel produit. Voilà. On a un petit peu de temps pour les questions, ou peut-être vos remarques.
Sur cette dernière partie, c'est vraiment là où on va, la téléprogrammatique est qu'un chemin. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. L'intérêt, c'est vraiment la télé segmentée pour pouvoir faire tous les cas d'usage que tu viens d'évoquer. Je suis très content d'avoir une CDP dans ces cas-là. C'est-à-dire que j'ai une grosse base de données avec tous mes clients dedans et de tout ce qu'ils font et que je mesure depuis... des années sur le digital, je me sens à l'aise pour accélérer le moment où la techno sera là, mais ça m'aide beaucoup. Et effectivement, la notion de clean room te donne, notamment en France avec les normes et la réglementation, ça nous donne un moyen technique de pouvoir continuer à faire du marketing intelligent au service du client. Donc ça aussi, c'est pour moi quelque chose avec un grand intérêt.
Merci.
Et pour ma part, juste les quelques points que je veux rajouter, parce que je suis d'accord avec tout ça. Je pense qu'un avantage psychologique de la télé par rapport à tous les autres médias, c'est que c'est un média qui a, je sais pas, 50, 60 ans, maintenant 80, d'historique, beaucoup d'études qui montrent que je fais de la télé, j'ai mis plus 40, plus 50% de ventes. Et ça, c'est un avantage incomparable. Quand on parle à un comex de chez Groupe Seb, je lui dis je fais de la télé, il me dit super, tu vas faire plus 40% de ventes. Je lui dis je fais du digital et je vais avoir un CPM de temps ou un ROAS de temps. Et ça veut dire quoi ? Et justement, ces solutions de clean room vont nous permettre d'arriver, comme tu dis, à mesurer des incrémentaux. Et en fait, c'est tout ce qui nous intéresse. Quand on est une marque, la réalité, c'est que le fin du fin, c'est ça. Un ROAS n'a strictement aucun sens. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait des réunions avec Amazon qui m'expliquait que le ROAS de ma campagne était de 27. Je m'en fous complètement. Et il me disait, oui, mais on n'a pas le droit de te donner un autre KPI, quoi. Et ça montre bien le problème. Et les clean rooms vont faire basculer ça. Le deuxième point qui me semble intéressant, enfin là je rebondis juste sur ce que tu disais, c'est très marrant parce que moi, cette question du fil rouge, j'en étais convaincu sur le digital, j'en suis convaincu sur la télé depuis pas très longtemps. On a mis en place un panel, ça s'appelle YouGov, je fais de la pub pour d'autres, je suis pas payé et tout ça, mais qui nous permet de mesurer semaine après semaine nos indicateurs de marque. Et en fait, c'est hyper spectaculaire. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on communique ce qu'on fait tous, enfin, je pense, sauf un co, enfin, j'en sais rien. En tout cas, nous, chez CEP, c'est ce qu'on fait. On fait des bursts, on fait 4 semaines de campagne télé. Ce qu'on voit, c'est 4 semaines de campagne télé, ma marque, elle fait... Mais 2 jours après la campagne télé, ma marque, elle fait... Et les seuls qui arrivent à monter, c'est des marques qui investissent bien moins que nous, mais qui investissent en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet. Et eux, on voit que, alors ils partent de plus bas, parce qu'on a des marques qui ont une très forte notoriété dans le groupe SEM, et je ne citerai pas ces groupes, mais il y a 2-3 groupes comme ça qui sont arrivés, qui investissent très très peu, ils ont très très peu de GRP, donc ça correspond un petit peu à l'histoire de ce qu'on veut faire en programmatique. Enfin, pour ceux qui achètent un petit peu de la télé, enfin, ils achètent du 50 GRP par mois, donc 50 GRP c'est inaudible. Mais ils font ça tous les mois, et ils le font depuis 2 ans. Et eux, leur marque, enfin, ils avaient 0% de notoriété il y a 2 ans, et aujourd'hui, ils sont à 20, 30, 40. Mais sauf que ça ne rebaisse jamais. Alors que moi, Seb, je fais... Et j'ai aucune progression. Enfin, quand je tire la moyenne sur 12 mois, en fait, je n'ai pas de progression. Donc, je crois... Enfin, j'étais ultra convaincu du always on sur le digital, mais je suis ultra convaincu du always on sur la télé. Voilà, c'était tout ce que je voulais apporter.
Merci beaucoup. C'est génial parce qu'on peut avoir des conversations qu'on ne prend jamais le temps d'avoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un petit peu débordé le temps. Pas de questions? Bon, merci infiniment. Ouais, si, Aurélien. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais. Ouais, ouais. On commence, hein. Ouais, il y en a. Je pense que toutes les marques vont s'équiper. Si on se revoit dans 5 ans, tout le monde en aura une. Et donc, on va discuter entre distributeurs, marques et publishers pour savoir laquelle on utilise. C'est vrai que c'est plus urgent pour les distributeurs, mais je pense qu'on va vers ça. Vraiment, merci à vous deux. Merci Yann, merci Stéphane. C'était passionnant. Et merci à vous tous.
Merci pour l'invitation.